Nous continuons notre parcours avec l'enseignement de Jésus dans ce que l'on appelle le sermon sur la montagne, les instructions que le Seigneur donne à ceux qui veulent être ses disciples. Et je vous invite à lire dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, les versets 13 à 16. Matthieu, chapitre 5, les versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jusqu'ici notre lecture. À quoi servons-nous sur la terre? Quelle peut bien être notre utilité? Cette question, tôt ou tard, elle nous rejoint. Parfois très jeune, quand on cherche son chemin dans la vie, on veut savoir à quoi servir. Parfois plus tard, lorsque s'approche l'heure des bilans, à quoi ai-je servi? Parfois brusquement, au détour d'un événement, d'une rencontre. Parfois de manière lancinante, comme un refrain qui ne nous quitte pas. À quoi servons-nous sur la terre? À quoi servons-nous en tant que disciples de Jésus? Cette question est plus pointue, mais elle vaut la peine d'être posée elle aussi. Elle sort la vie chrétienne d'un cercle un peu trop fermé où on ne verrait par exemple que ce que cette vie nous apporte à nous. Il est bon d'être chrétien, il est bon d'appartenir à Dieu, de vivre avec Dieu. Poser la question de à quoi sert notre vie de disciple nous sort de cela. Et Jésus aborde cette question très tôt dans la formation de ses disciples, comme s'il voulait s'assurer que nous nous engageons dans la vie qu'il nous propose avec de bonnes perspectives. À quoi servons-nous en tant que disciples de Jésus? Jésus pose la question, mais sa réponse est étonnante. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. D'emblée, ça semble trop. Hey, dis ça de toi, Seigneur, mais pas de nous. On n'a pas cette prétention. On n'oserait pas se donner un tel rôle. Et si jamais c'est une mission que tu nous confies, n'est-elle pas un peu trop ambitieuse? C'est ce qu'on est, nous, tes disciples, sur la terre. Qui sont-ils donc, ceux à qui le Seigneur Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Jésus les a décrits déjà, assez précisément. Ce sont des gens qui n'en imposent pas. Ce ne sont pas des gens qui roulent les mécaniques. Ce sont les pauvres de cœur. Ce sont les doux. Ce sont les miséricordieux. Ce sont ceux qui pleurent. Ceux qui ont faim et soif de justice. Ce sont les artisans de paix. Ce sont ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui m'aiment parfois sont déconsidérés et persécutés pour la justice, mais qui, dans tout ce qu'ils vivent, mettent leur attente, leur espérance en Dieu. Aucune présomption de leur part, aucun m'as-tu vu. Et pourtant, Jésus affirme d'eux qu'ils ont une valeur, une utilité, une mission pour ce monde. Gardons cela à l'esprit en écoutant les paroles de Jésus. Elles ne s'adressent pas à des disciples qui soudain se gonfleraient d'importance comme des ballons de baudruche prêts à exploser. C'est dans leur humilité que Jésus connaît. C'est dans cette humilité qu'il s'adresse à ses disciples. Celle de la terre, lumière du monde. À quelle échelle faut-il voir ce double rôle de sel et de lumière? Ces images sont d'abord tirées de la vie familiale. Dans chaque maison, riche ou pauvre, on utilisait du sel et de la lumière. Je commence par la lumière, le plus évident. Le besoin de s'éclairer existe partout et de tout temps. La différence entre le temps de Jésus et le nôtre, c'est qu'au temps de Jésus, la fée électricité n'était pas encore entrée dans les maisons, ni dans les villages ou dans les villes. J'ai lu qu'en Bretagne, c'est seulement en 63 que jusque dans les fins fonds des villages, la fée électricité était entrée. Au temps de Jésus, la lumière, on s'éclairait comment? Avec des lampes à huile. Ni lampadaire, ni projecteur puissant. Être lumière du monde ne veut pas dire briller de mille feux, éblouir, transpercer à des kilomètres à la ronde. Ce n'est pas le rayon laser de la tour Eiffel. Au temps de Jésus, chaque lumière éclairait son environnement proche. Et de loin, si on voyait une ville éclairée, ce n'était pas à la façon des artères et des buildings de nos grands centres d'affaires, mais c'était par une série de petites lampes d'intérieur dont on discernait pour chacune la lumière. La lumière dont parle Jésus est donc faite de plusieurs apports lumineux. Et s'il parle de la lumière du monde, ce n'est pas parce qu'il y a une lumière laser qui éclaire le monde entier, c'est parce qu'il y a ses disciples qui se répartiront partout à l'échelle du monde. Et là où ils sont, apporteront quelque chose de cette lumière, là où ils seront. La lumière, telle que Jésus l'envisageait en son temps. Le sel, par contre, alors au temps de Jésus, avait beaucoup plus d'importance que ce qu'il a aujourd'hui pour nous. Pour nous, le sel, c'est un condiment qui sert simplement à relever le goût des aliments. Mais au temps de Jésus, c'était cela en partie, mais c'était surtout le moyen de conserver les aliments. Avant l'invention des frigidaires, partout, comment est-ce qu'on a conservé les aliments? C'était en les salant. Il fallait saler les aliments pour les conserver, pour éviter la putréfaction. Les poissons, les viandes, les légumes étaient ainsi, grâce au salage, préservés dans les maisons. Et il y a peu encore, peu de temps, le sel avait de ce fait une valeur immense, au point que certains l'ont appelé l'or blanc, tant il se négociait cher. Si vous visitez un jour les salines royales d'Arc-en-Senant, dans le Jura, c'est ce qu'on vous explique. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'importance du sel pour la conservation des aliments justifiait qu'on crée des installations impressionnantes, tant la production de sel intéressait les finances de l'État. Alors, si ça intéresse les finances de l'État, c'est que c'est très important. Le sel, donc, moyen de conservation, pour éviter que les choses se délitent. Que disent ces images du sel et de la lumière sur le rapport entre le monde et l'Église? Jésus distingue ici clairement entre vous et le monde. L'Église et le monde sont, dans son optique, des communautés distinctes. Elles sont en relation, bien sûr. Mais vous, dit Jésus à ses disciples, vous avez un rôle à jouer pour le monde, pour les hommes et les femmes qui vous entourent. On veut parfois gommer toute différence entre l'Église et le monde. Certains disent que toute l'humanité est le peuple de Dieu, pas de différence à cause de cela. D'autres que les chrétiens doivent se fondre dans la société incognito, y vivre comme des chrétiens anonymes. Jésus, lui, affirme qu'il y a une différence et que cette différence est positive car elle permet aux chrétiens, avec ce qu'ils sont, d'apporter quelque chose de spécifique au monde avec ce qu'il est. Mais ce que Jésus nous dit ici n'est quand même pas très favorable au monde, il faut le reconnaître. Jésus décrit le monde comme une réalité, une entité qui a besoin de lumière et d'une autre lumière que la sienne propre. C'est déclarer que quand même le monde est un lieu obscur. Nos sociétés aiment se convaincre qu'elles sont lumière. L'avènement de la raison triomphante a été appelé le siècle des Lumières. Et c'est vrai que la raison a apporté beaucoup de lumière. C'est un grand cadeau de Dieu qui est source première de l'ordre et de l'intelligence. Quand nos sociétés se représentent elles-mêmes, se mettent en scène, en général, ce sont des belles fêtes, très lumineuses. Ça dit quelque chose de la façon dont le monde se voit. Et nos écrans aiment le glamour et tout ce qui brille. Mais derrière ces façades, il faut quand même le reconnaître et nous n'avons aucune illusion là-dessus, l'ombre est bien là. L'actualité nous le rappelle douloureusement, régulièrement. Cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu, Yann Arthus-Bertrand a présenté son nouveau film « Human ». Il n'y décrit plus notre planète Terre comme il le faisait autrefois, la Terre vue d'en haut avec ses beautés sublimes, rassurantes, réconciliatrice, que c'est beau la Terre. Mais il s'attache cette fois-ci, en décrivant le monde, il s'attache à décrire la réalité humaine qui fait le monde et dont il explore les méandres. Il y a des dizaines de récits, il a fait 2000 interviews de plus de 2 heures chacune, des dizaines de récits qui sont très personnels, cadrés juste sur les visages des gens qui y racontent. Des gens de tout continent, de tout contexte. Et quand on entend ce qui est dit sur ce qu'est l'homme dans le monde, c'est à la fois parfois magnifique et parfois terriblement oppressant. C'est bouleversant et c'est terriblement dérangeant. Et ça oblige à regarder en face sur des visages, parfois une part lumineuse et parfois des réalités d'ombre qui font mal ou l'impact du mal sur ceux qui le subissent. Regardez, voyez ce film, hein, il faut absolument, et ça, et le méditer. Le monde a sa part d'ombre, et il pourrait ainsi, à cause du mal, se décomposer, partir en déconfiture complète. C'est même sa tendance constante, là où le mal est à l'œuvre, car le mal ne construit rien, il parasite. Il affaiblit, il gangrène, il détériore. Et notre monde a besoin de sel, d'éléments qui évitent que les choses se délitent, se gangrènent comme ça à cause du mal. Et il a besoin aussi de lumière pour apporter là des repères, une clarté, la vie de Dieu. Et c'est ainsi que Jésus se tourne vers ses disciples en leur disant « Vous êtes le sel de la terre ». Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Cette parole, il faut la recevoir droitement. Jésus insiste sur notre rôle. Vous êtes le sel de la terre. Il parle à ses disciples. Il parle à son Église. Et c'est notre personne, c'est notre action qu'il vise. Il ne dit pas « vous avez le sel de la terre », mais il dit « vous êtes ». Nous sommes donc, nous, concernés dans notre personne, dans notre action. Notre implication est entière. Alors, quelques questions ici. Est-ce que les disciples sont sels de la terre par définition, par leur présence même sur la terre? Certains l'affirment et disent que Dieu ne conserve la terre qu'à cause de ses enfants, de ceux qui le sont et de ceux qui le deviendront. Or, il est certain que Dieu a pour projet de rassembler son peuple et de permettre à tous ses élus de lui appartenir. Mais Jésus nous dit aussi dans le Sermon sur la montagne que notre Père céleste fait lever son soleil sur les justes comme sur les méchants, qu'il est miséricordieux pour tous, qu'il fait du bien même à ceux qui le refusent ou ne le reconnaissent pas. Et si le monde subsiste, c'est à cause de cet amour large de Dieu pour toutes ses créatures, et pas simplement à cause de son amour pour ses enfants. Il faut juste le souligner en face de cette manière de voir les choses. D'ailleurs, Jésus insiste sur le fait que, pour être sel de la terre, il nous faut veiller à ne pas perdre notre saveur. C'est donc par notre action, notre manière d'être, que nous serons sel de la terre, mais pas simplement par notre présence. Ne pensons pas donc que nous sommes, que si Dieu continue à maintenir le monde, c'est à cause des chrétiens. C'est son amour pour tous qui fait que Dieu maintient le monde. Alors faut-il comprendre le sel de la terre avec des majuscules partout? Le majuscule, sel avec majuscule. L'unique agent de conservation du monde, l'unique rempart face au mal. L'article le sel pourrait aller dans ce sens, mais il n'oblige pas à cette lecture exclusive. S'il y a d'autres moyens et que Jésus veut souligner le rôle particulier de ses disciples, il peut leur dire « Vous êtes le sel de la terre ». D'autres le sont aussi, mais vous l'êtes assurément. Quels sont donc les moyens par lesquels Dieu restreint le mal dans le monde, par lesquels Dieu restreint les effets destructeurs du mal dans le monde? De toute évidence, il y en a plusieurs. Dieu a donné certaines institutions, par exemple, certaines institutions qui limitent les effets de l'égoïsme humain. L'État, la justice, qui assure un certain nombre de régulations, qui doivent favoriser, comme dit l'apôtre Paul, ceux qui font le bien et punir ceux qui font le mal. Et l'histoire récente nous montre comment tous les lieux où il n'y a plus d'État, où règne l'anarchie, deviennent des proies faciles, où le mal s'engouffre sous toutes ses formes. Il y a donc là, dans cette institution, il y a là une vraie limitation du mal par l'État, par la justice, et on peut ajouter par l'éducation, par les structures de solidarité. Tout cela contribue à limiter le mal, les effets du mal sur la terre. La famille est une autre institution qui permet la limitation des effets du mal. C'est là que l'on doit apprendre le respect de l'autre, les valeurs, la solidarité, l'engagement, l'accueil. C'est là que chacun doit acquérir ses bases identitaires qui lui permettront de s'ouvrir à l'autre, de se relier harmonieusement. Et le Seigneur veille à ce que, également comme autre facteur pour limiter le mal, à ce que des hommes et des femmes de bien existent, agissent dans toutes sortes de domaines. Tout cela, c'est ce que l'on appelle la grâce commune de Dieu, ces grâces qui sont maintenues en dehors de la foi chrétienne pour le bien, pour la subsistance du monde, pour que le monde reste un monde vivable malgré le mal qui gangrène tout. Et donc pour les disciples de Jésus, être sel de la terre, c'est participer activement à cette grâce commune. C'est participer activement à cette grâce commune, mais avec leur spécificité que Jésus appelle leur saveur. Nous sommes invités à prendre part au bien du monde et à sa préservation. Mais pour cela, Jésus nous dit, ne perdez surtout pas votre saveur. Quelle est-elle, cette saveur? N'est-ce pas précisément celle des béatitudes? Celle que Jésus a décrite lorsqu'il parle de ceux qui sont miséricordieux, de ceux qui procurent la paix, qui ont un cœur pur, qui ont faim et soif de justice. N'est-ce pas précisément ce caractère chrétien que Jésus souhaite pour nous, mais un caractère chrétien que nous sommes appelés à mettre en œuvre et à vivre dans le monde? Le propre du sel, s'il veut jouer son rôle, c'est d'être au contact de ce qu'il doit préserver. Le sel qui reste dans un bocal n'aura aucune action de préservation, aucune. il se préservera lui-même, c'est tout. Lorsque Jésus nous dit qu'il nous faut conserver notre saveur pour être sel de la terre, il nous invite à vivre dans la ligne des béatitudes, mais ceci dans notre vie de tous les jours, au contact des réalités qui nous entourent, que nous rencontrons. Être des personnes sans arrogance, parce que nous avons appris auprès de Dieu combien nous avons besoin de sa grâce. Savoir pleurer sur le mal, sur ses effets. Être et rester des doux plutôt que des gens qui se crispent toujours sur leurs intérêts à tout craint. Avoir faim et soif de justice dans les buts que nous poursuivons, mais aussi dans les moyens, dans la façon dont nous agissons. Être miséricordieux dans nos relations. Être clair et pur dans nos motivations. Chercher la paix. Prendre à bras le corps certaines situations pour les favoriser. Et ceci, même si parfois cela ne nous fait pas gagner l'approbation des hommes. Voilà la saveur sur laquelle nous devons veiller dans le monde, dans notre vie de tous les jours. Une personnalité telle qu'elle est décrite dans les béatitudes, un engagement qui se manifeste tant en parole qu'en acte. Et nous devons donc préserver au cœur de ce monde ce qui fait de nous une personne dont Jésus est le modèle. Dans le monde, dans nos actes, dans nos familles, à notre travail, quand nous faisons du sport, quand nous nous retrouvons entre amis. C'est en préservant cette identité, en la mettant en œuvre activement, que nous aurons un rôle positif. Pas en nous assimilant et en faisant comme tout le monde. Jésus dit du sel qui a perdu sa valeur, qu'il ne sert plus à rien. Il est juste bon à être jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes. En petite parenthèse ici, pour les scientifiques, c'est sûr que du point de vue chimique, le vrai sel ne perd pas sa valeur. Mais il existait au temps de Jésus, semble-t-il, des cristaux de choses qui ressemblaient à du sel, des cristaux non raffinés, faits de toutes sortes de composants chimiques dont le sel qu'il contenait s'était plus ou moins dilué. Il ressemblait encore à du sel sans en être vraiment. Et Jésus nous dit, attention, vous avez un rôle à jouer dans ce monde à condition de rester ce que vous êtes, de rester ce que vous êtes dans toutes vos relations, de rester des chrétiens authentiques, cohérents, fidèles aux principes de l'Évangile, agissant selon ces principes dans les situations que vous vivez. Gardez une conduite chrétienne dans tout ce que nous faisons. Voilà le secret de notre utilité à nous. Voilà la contribution spécifique que nous avons à apporter dans notre monde, dans notre vie, dans notre entourage. Vous êtes le sel de la terre. Mais Jésus souligne l'influence de ses disciples dans le monde par une seconde image, celle de la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Autant l'action du sel est utile dans la persévérance et la présence parfois discrète, autant l'action de la lumière, elle, fait une différence visible et immédiate. Si vous êtes plongé dans le noir et qu'il y a même une petite lumière, même ténue, ça change tout. C'est juste la délivrance de ceux qui sont totalement dans le noir que de voir quelque part une toute petite lumière. C'est un repère, le signe d'une vie, de quelque chose. Et si vous êtes dans une obscurité, une pénombre plus ou moins grande, une lampe qui vient éclairer cette semi-obscurité vous permettra d'agir avec assurance, de distinguer les choses, les objets, les couleurs, les visages. La lumière, c'est la vie active, la vie en assurance, la vie en liberté. Lorsque la Bible parle de la lumière de la vie, elle renvoie systématiquement à Dieu dans notre vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Dans ta lumière, nous voyons la lumière, dit le psaume 136. Si je suis dans les ténèbres, le Seigneur sera ma lumière, dit Michée, le prophète. Lorsque la Bible parle des ténèbres, elle décrit parfois des situations d'oppression et d'incertitude, mais plus généralement et plus fondamentalement, être dans les ténèbres, c'est vivre en dehors de la lumière de Dieu, en dehors de la référence à Dieu, en se déterminant soi-même, plutôt qu'en acceptant d'être conduit par Dieu et éclairé par ses directives. Ce mode de vie s'accompagne d'œuvres qui lui correspondent et que l'on décrit comme des œuvres des ténèbres, parce qu'elles sont produites justement par cette vie sans Dieu. La lumière du monde, donc, dont parle Jésus, renvoie à ces ténèbres du monde qui sont des ténèbres d'ignorance et de refus de Dieu. Et c'est dans ce sens qu'il affirme en parlant de lui-même, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est dans cette perspective qu'il est venu dans le monde comme la lumière qui brille dans les ténèbres, comme la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Dans le livre d'Ésaïe, un personnage est annoncé, serviteur de l'Éternel, et il est annoncé comme celui qui est établi pour être la lumière des nations, la lumière des nations. Et comment le fait-il ? Il le fait par l'instruction qu'il apporte, il est question de sa loi qu'il apporte. Il le fait par une alliance nouvelle qu'il rend possible entre Dieu et les hommes, et là on parle de relation. Et il le fait, Ésaïe l'annonce plus tard, par la réconciliation avec Dieu, qu'il rend possible en prenant sur lui le châtiment que méritent nos fautes, afin de nous donner la paix avec Dieu. Et Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. C'est par vous que cette lumière réconciliatrice avec Dieu, que cette lumière doit être apportée au monde. Et vous êtes appelés à briller de cette lumière. Et sur quoi est-ce que cela doit déboucher que de briller de la lumière dont Jésus parle ? Sur le fait que ceux qui reçoivent cette lumière, nous dit Jésus, glorifient votre Père qui est dans les cieux. La lumière porte son fruit lorsque des hommes et des femmes s'ouvrent à Dieu, le découvrent comme leur Père céleste et le glorifient. Chante la joie de cette magnifique découverte, la joie de cette relation, de cette ouverture à Dieu. Voilà pour l'objectif. Et on notera la différence. Être sel, c'est œuvrer pour notre monde, pour le monde, à l'intérieur du monde, dans sa réalité propre. Être lumière, c'est orienter vers Dieu. C'est prendre une part dans la démarche qui permet à certains de ceux qui nous entourent et qui vivent sans Dieu, qui leur permettent de glorifier notre Père céleste commun. Ce n'est pas tout à fait la même démarche. Mais qu'en est-il des moyens pour être lumière du monde ? C'est d'abord, nous dit Jésus, une attitude. Il faut le vouloir. Une lumière, si elle doit jouer son rôle de lumière, ne se cache pas. Jésus dit, elle ne se met pas sous un boisseau. Un boisseau, à l'époque de Jésus, c'était un récipient avec lequel on mesurait le grain. Donc un récipient bien fermé, bien étanche, hein, pour que même pas un grain puisse passer. Et mettre une lumière sous un boisseau, c'est vraiment la contenir, c'est l'enfermer, la masquer sous un couvercle opaque. Jésus dit non. Être lumière, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Vous la mettez sur un chandelier. Autrement dit, cette lumière, manifestez-la pour qu'elle rayonne autour de vous, pour qu'elle rayonne dans votre environnement. Mais comment la manifester ? S'il fallait donner une réponse à comment manifester cette lumière, je dirais c'est en des œuvres bonnes qui conduisent à glorifier Dieu comme Père. Ça me permet de résumer les choses ainsi. En des œuvres bonnes qui conduisent à glorifier Dieu comme Père. Pourquoi est-ce que je précise cela ? Parce qu'il y a un petit débat, un débat qui revient toujours quand on parle d'être lumière autour de nous. Et le débat tourne toujours autour de la question assez clivante. Est-ce que c'est par nos vies qu'on est lumière ou est-ce que c'est par nos paroles qu'on est lumière? Alors vous avez d'un côté les spécialistes du témoignage par la vie, mais allergiques à toute parole qui exprime la foi. Et vous avez de l'autre côté les accros au témoignage par la parole et qui insistent sur le fait qu'il faut parler de notre foi, parler de l'Évangile et encore et encore et à tous. Jésus, me semble-t-il, ne permet juste pas cette opposition entre témoigner par la vie et témoigner par les paroles. Que dit-il ? C'est par nos œuvres bonnes que nous allons refléter la lumière de Dieu. Ça veut dire que nos vies doivent incarner, oui, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Nos vies doivent refléter quelque chose de ce plus qu'apporte la relation retrouvée avec Dieu. Si on parle de ce que Dieu nous apporte, ben c'est bien que notre vie en reflète quelque chose. Mais nos vies doivent témoigner de cela de telle sorte qu'on puisse glorifier Dieu pour cela. C'est ça ce que dit Jésus, que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça suppose que ceux qui nous voient, s'ils voient quelque chose en nous, savent où se trouvent les sources de notre vie. Autrement, ils se contenteront de dire du bien de nous, mais ce n'est pas ça le but de la manœuvre. Le but, ce n'est pas qu'on dise du bien de nous, mais c'est qu'au travers de notre vie, on puisse glorifier Dieu. Mais comment glorifier Dieu si jamais les gens ne savent que c'est parce que Dieu est présent dans notre vie que nous essayons d'être ce que nous sommes. Vous voyez que les deux choses vont ensemble. Les paroles doivent être portées par notre vie, mais la vie ne suffit pas, parce que nos vies doivent devenir des témoignages qui orientent vers Dieu et qui continuent et qui contribuent à glorifier notre Père céleste. Et les œuvres qui permettront de glorifier Dieu sont donc celles qui incarnent la bonne nouvelle de son amour, mais cet amour que par ailleurs nous proclamons, que nous disons aussi. Alors le dosage entre les paroles et la vie, Jésus ne le donne pas. Et c'est bien que ce soit comme ça. C'est à nous de le trouver, ce dosage, et à prier que Dieu nous aide à le trouver de manière juste, de manière adéquate, correspondant à notre situation, à nos relations, dans notre cadre de vie. Mais il y a une vraie lumière, une précieuse lumière dont nous pouvons être les porteurs là où nous nous trouvons. Éclairer un peu quelque chose de la maison qui est la nôtre, où que nous soyons, où que nous agissions, là où nous nous trouvons dans la vie de tous les jours. Vous êtes sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Être disciple de Jésus, une influence, oui, une influence à exercer, une influence positive, bienfaisante, soyons-en convaincus, une influence bien sûr respectueuse des autres, mais engagée dans le monde, dans l'authenticité de ce que nous sommes et avec le souci d'une cohérence entre ce que nous disons, ce que nous manifestons. C'est ce que nous sommes appelés à être, à vivre dans ce monde. Mais pour exercer cette influence, il nous faut être convaincus que nous avons quelque chose à apporter. Il nous faut être convaincus que nous avons quelque chose à apporter. Quelque chose qui, humblement peut-être, mais certainement, fait une différence, une belle différence dans la vie, dans notre vie, qui peut faire une différence dans la vie de ceux qui nous entourent, dans les environnements, où l'influence de l'Évangile agit. Que vraiment nous ayons la certitude que cela fait une différence. La vie de Jésus et le rayonnement de Jésus en sont la preuve. En sont la preuve. Que sa lumière donc nous illumine, nous transforme pour que nous apportions quelque chose de lui autour de nous. et qu'auprès de lui, qu'à son école, nous découvrions cette saveur qui donnera du piquant à nos vies, à nos paroles, à nos relations dans ce monde. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Amen.